Cube Radio.
La zone payante. Bienvenue dans la zone payante, amateur de football. Mathieu Boivin, votre co-animateur de la zone payante avec, à ma gauche, Jean Carrier, notre spécialiste fantasy, ex-analyste des matchs Rouge et Or football. En forme, mon Jean Nessé?
Extrêmement en forme.
Oui, oui, on le sent. On le sent. On sent que ton fils n'a pas donné de trouble non plus un matin. Tout va bien. On continue et on s'en va du côté de Kansas City. Avec l'ami Stéphane Cadorette, journaliste du Journal de Québec, qui couvre le match pour le journal au cours des prochains jours jusqu'au fameux match de dimanche. Stéphane, tu m'entends bien?
Très bien. Un privilégié à Kansas City.
Ben oui, parle-nous donc de ça, le privilégié. Comment ça se passe? Parle-nous comment ça s'est passé depuis ton arrivée et notamment la rencontre avec le joueur québécois de ligne offensive des Chiefs de Kansas City, Laurent Duvernay-Tardif.
Ben, première des choses, c'est que la ville est en liesse. Ça, c'est sûr. Écoutez, ça fait 50 ans qu'il s'est gagné un Super Bowl ici. Là. La dernière fois, c'était janvier 70, donc ça fait 50 ans pile. T'embarques dans un taxi, tu t'en vas au restaurant, tu te promènes dans la rue, les gens ne parlent que de ça. Puis, ce qui est le fun, c'est que des fois, t'es dans des grands, grands marchés où il y a plusieurs équipes sportives, il y a plusieurs autres options. Puis, t'essaies de parler aux gens du gros match qui s'en vient, puis ils sont ailleurs. Tu sais, ah ouais, je suis pas tellement un partisan de telle équipe. Ou ici à Kansas City, les Chiefs, c'est une religion. C'est à peu près tout ce qui compte. Il y a évidemment les Royals au baseball, mais on n'est pas dans la saison, donc tout est focusé sur les Chiefs puis sur la disette de 50 ans là, sans Super Bowl. Donc beaucoup de discussions autour des Chiefs, c'est vraiment très bien. Puis hier, effectivement, moi, c'était ma première journée sur place, donc c'était première fois dans le vestiaire, donc rencontre avec Laurent Duvernay-Tardif, très fébrile à l'approche de cet affrontement-là. J'ai pris, évidemment, là, des clips audio qu'on va pouvoir écouter, là. Ça va me faire plaisir de partager ça. Et puis, vous allez voir que c'est vraiment un grand moment qui s'apprête à vivre, parce que l'année passée, il faut se souvenir, il n'avait pas pu être en uniforme lors de la finale de conférence face aux Patriots. Laurent se remettait d'une fracture du péroné. Il était prêt à jouer médicalement, mais les Chiefs avaient jugé bon de garder Andrew Wiley dans la mêlée à la place de lui parce qu'il y avait la chimie sur la ligne offensive à ce moment-là. Donc, c'est dans un tout autre état d'esprit que Laurent se présente pour sa première finale de conférence sur le terrain.
Excellent. Et on va y aller avec la première clip. On en a trois à vous faire écouter. La première clip intitulée Feeling dans notre système. On la laisse aller et après ça, on discute.
Je n'ai jamais senti aussi bien en décembre. Ça a été un super bon mois physiquement, mais mentalement aussi. Tu sais, comme j'avais hâte au game dans le froid, j'avais hâte à la game dans la neige contre Denver. Mon niveau de jeu s'est amélioré aussi. Puis ça, c'est le fun quand tu sens que tu piques au bon moment. Puis j'ai joué aussi une bonne game en fin de semaine passée. Fait que je pense que mentalement, je suis confiant. Puis j'ai hâte.
Donc, Stéphane, peux-tu nous dire un peu à quoi répondait Laurent pour mettre un contexte là, pour les auditeurs?
Ben, c'est ça. Je lui demandais comment il se sentait en ce moment par rapport aux autres années parce que ce qu'il dit en gros, c'est qu'il s'est jamais senti aussi bien aussi loin dans la saison. Parce qu'en décembre, en janvier, c'est là que les bobos sortent. Là, on le sait au football, à un moment donné, le corps est hypothéqué, veut pas. Puis Laurent, ben, il a raté quelques matchs cette saison en raison d'une blessure, mais depuis qu'il est revenu, son jeu est continuellement en amélioration. Donc, c'est un peu là ce qu'il me racontait. Il sent, comme il dit, qu'il pique au bon moment, donc il atteint son apogée au moment parfait. Puis c'est intéressant, ça va être le fun de le voir aller là, contre les Titans et Gerald Casey en particulier, parce que faut savoir que la semaine passée, les Chiefs ont pas donné un sac. Ça a été une très, très bonne partie là, du côté de la ligne offensive. Ils ont fait du beau boulot contre J.J. Watt et compagnie. Là, c'est une autre sorte de défi qui les attend. Puis dans le prochain extrait audio, justement, Laurent là, nous parle du défi que posent plus particulièrement les Titans.
Ouais, non, c'est ça. Il y a un bon package de blitz en général, qui est peut-être un peu moins prévisible que certaines autres défensives, qui vont faire en sorte que des fois Pat va devoir comme re-ID ou lancer hot parce qu'il va avoir une pression sur lui qu'on pourra pas bloquer. Fait que tu sais, être capable de de bien communiquer. Je pense que jouer à la maison, c'est un gros avantage dans des situations comme ça. Puis, au niveau de la ligne défensive, tu sais, des super bons joueurs comme Gerald Casey, contre qui j'ai déjà joué. Puis, tu sais, c'est des joueurs qui sont on the move tout le temps. Fait que les blitz sont souvent accompagnés de mouvements de la ligne. Fait que, tu sais, dans le run game, être capable de pas comme fall out the window, être capable d'avoir une bonne base puis de s'ajuster, faire les ajustements aussi au fur et à mesure que la game avance. C'est des petites choses. Puis moi aussi, personnellement, j'ai pas joué contre ces gars cette année, j'étais blessé. Fait c'est sûr que j'ai ma semaine de préparation. J'ai déjà lu mes notes la première fois qu'on a joué contre eux, mais là, c'est de se mettre dans l'autre point de vue, le point de vue du joueur qui doit aller le faire. Puis contre un très bon joueur, Joe Casey.
Alors, Johnny, vas-y là-dessus.
Stéphane, est-ce que tu sens qu'il y a, de ce que je ressens un petit peu des commentaires de Laurent, c'est qu'il y a beaucoup de respect pour le front défensif puis sur ce qu'ils peuvent créer comme problème pour la ligne en attaque des Chiefs?
Ben, beaucoup de respect pour le front, oui, puis je te dirais aussi même pour la tertiaire. Puis tu vas me dire pourquoi la tertiaire, c'est parce que tu regardes les statistiques du côté des Titans, beaucoup de blitz déguisés là, du côté des demi-de-coins, des maraudeurs aussi, donc... C'est une défensive, globalement, qui est assez imprévisible. Puis, Laurent, c'est à ça qu'il faisait allusion. Donc, oui, il y a le front, parce qu'évidemment, lui, il va passer la moitié de sa journée, et même plus, à essayer de contenir les élans de Gerald Casey, là, le gros packer des Titans. Mais il y a plus que ça là, du côté de la défensive des Titans. Comme il mentionne, imprévisible, c'est moins classique un peu que les autres défensives, là, peut-être, que les Chiefs ont vu cette année. Donc, en ce sens-là, là, c'est un gros défi pour toute la ligne offensive.
Et on va y aller pour un dernier extrait audio, s'il vous plaît. On va mettre l'extrait Super Bowl qui nous parle un peu. Faut peut-être pas voir trop loin là, dans l'avenir. Faut se concentrer sur le match à venir. On va mettre l'extrait, s'il vous plaît.
Personnellement, tu sais, je me suis jamais rendu là. Puis on a quand même, personnellement, un goût amer par rapport à celle de l'année passée. Je pense que vu qu'il y a deux semaines aussi entre les deux, si on gagne, quand on va gagner, puis fait que je focus vraiment sur cette game-ci. Puis j'ai aucune idée comment ça fonctionne, j'ai aucune idée. Il y a plein de questions qui vont venir avec ça, mais on n'est pas rendu là. Puis en ce moment, on doit se focusser sur battre une équipe qui joue du vraiment bon football en ce moment.
Stéphane, mais nous donne un peu de contexte autour de cette réponse-là, s'il vous plaît.
Oui, c'est ça, exactement. Je lui ai demandé, moi, dans le fond, est-ce qu'il y a un danger à quelque part, de quand t'es si près du but, t'as beau te dire comme être humain, non, un match à la fois, un jeu à la fois, là, c'est beau, là, c'est cliché, c'est bien pensant et tout. Mais c'est pas évident, là. Quand tu sais que t'es si près du but, de l'objectif ultime d'aller au Super Bowl, c'est ce que j'ai demandé en gros. Est-ce qu'il y a un danger là, de finalement sauter l'étape qui précède? Puis Laurent est très terre à terre là, par rapport à ça. J'ai vraiment aimé sa réponse quand il dit si on gagne, puis il se reprend en disant ben, plutôt quand on va gagner, puis là il dit en riant, c'est un peu une boutade qu'il fait, sauf qu'il reste que ça démontre un peu la confiance, l'état d'esprit qui règne dans cette équipe-là. C'est une équipe qui n'a pas perdu là, depuis le mois de novembre, justement contre Tennessee. C'est la dernière défaite des Chiefs. Donc tout le monde est en confiance dans ce vestiaire-là. Ça paraît. L'ambiance est détendue. Tu sais, hier, je regardais là, entre les entrevues, ça jouait au basketball, c'était bien relax. Là, il y en a qui vont dire, est-ce que c'est trop détendu? Est-ce que ça veut dire qu'ils prennent un peu la victoire pour acquis? Je pense pas. C'est juste que c'est une équipe qui est en confiance, qui joue son meilleur football au bon moment. Puis, à un moment donné, ben, c'est ce que ça rapporte là, comme attitude actuellement.
Vas-y donc, Johnny.
Stéphane, tu sais, avec la victoire de la semaine passée, que tu tires de l'arrière 24-0 puis que tu reviens dans évidemment pour gagner, j'imagine que c'est presque impossible de pas être confiant non plus d'un autre côté. Là.
Ben, c'est un bon point que tu amènes. Puis Laurent disait justement, parce qu'il faut comprendre l'entrevue que j'ai faite avec lui, il y avait d'autres médias anglophones aussi autour. Puis dans une des questions en anglais, c'est pour ça que j'ai pas envoyé la clip audio, mais il y en a un qui demandait en quoi ça vous aide d'avoir passé à travers d'une situation comme celle-là. Puis Laurent, il dit, ben écoute, quand on voit qu'on peut aller mettre 7 touchés en ligne sans riposte, après avoir tiré de l'arrière par 24 points, il y a une chimie qui s'installe puis qui n'a jamais été si forte là, cette année puis dans les dernières années. Donc, c'est un peu l'effet que ça a eu, ce match-là, sur les troupes. Là, c'est sûr que tout le monde dit on est passé à autre chose, on est au match suivant, on est face aux Titans. Maintenant, ça ne veut plus rien dire, la victoire face aux Texans. Mais il reste que ça a eu des effets positifs, ça, c'est sûr et certain.
John Essay, Qu'est-ce que tu vas regarder dans ce match-là? Est-ce que c'est le duel jeu aérien pour les Chiefs, jeu au sol avec l'immense porteur de ballon Derrick Henry? C'est quoi qui va attirer ton attention là?
Ben moi, ce qui attire mon attention, c'est que je trouve que les Titans sont bâtis exactement de la bonne façon pour battre.
Pour espérer les battre.
Tu sais, c'est puis le match pour moi, c'est faiblesse contre faiblesse. Si on peut le dire comme ça, tu sais, l'attaque aérienne des Chiefs est extrêmement dominante. La tertiaire des Titans n'est pas est vraiment pas
pas la force de l'équipe.
Non, vraiment pas. Donc de ce côté-là, ben, je vois un méga avantage aux Chiefs, mais de l'autre côté aussi, l'attaque terrestre des Titans, on le voit dans les deux dernières semaines, elle fait peur. Derrick Henry fait peur. Puis j'ai rien vu dans la défensive des Chiefs au niveau terrestre qui peut me dire oh ils vont l'arrêter régulièrement. Donc c'est ça un petit peu qui est pour moi l'énigme là, de ce match là à résoudre. Qu'est-ce qui va être plus dominant? Est-ce que ça va être l'attaque aérienne des Chiefs ou l'attaque terrestre des Titans? Puis évidemment les Titans plus ils courent, plus ils ont le ballon des mains, puis plus l'attaque ultra explosive des 8-9 touchés qui peuvent compter rapidement, ben ils restent sur le banc. C'est écoute, ça reste un grand classique du football, mais quand tu affrontes une attaque explosive, tu t'arranges pour garder le ballon le plus longtemps possible.
Ton côté, Steph, toi, tu vas être sur les lieux. Qu'est-ce qui va attirer ton attention en ouverture de ce match-là?
Moi, j'ai hâte de voir si Ryan Tannehill peut faire plus de jeux que ce qu'il a fait depuis le début des séries. Puis c'est pas un blâme que je fais envers lui parce qu'écoute, il avait pas besoin de faire des jeux. C'est pas parce qu'il a pas été capable de les faire. Quand il a eu à le faire contre les Ravens la semaine passée, il a fait les gros jeux. Mais j'ai hâte de voir parce qu'il risque d'être quand même plus impliqué. On parle de l'attaque des Chiefs de l'autre côté qui est extrêmement dynamique, très, très explosive, qui risque de d'une façon ou d'une autre là, de marquer beaucoup de points. À un moment donné, si les Chiefs se donnent une avance tôt dans la rencontre, je comprends que les Titans abandonneront pas le jeu au sol, mais il y a un moment donné où il va falloir qu'ils accélèrent le rythme un peu, qu'ils aillent chercher les points que les Chiefs sont capables de mettre au tableau. Puis pour ça, je pense que ça va prendre une bonne performance de Tannehill. Ce qui est encourageant dans leur cas, c'est qu'ils avaient réussi à le faire lorsqu'ils s'étaient vus plus tôt en novembre. Il avait été très bon, Ryan Tannehill, dans les derniers instants du match, entre autres. Donc ça va être intéressant. Pour les Chiefs, c'est vrai, honnêtement, là, c'est une faiblesse du côté du jeu au sol. Donne beaucoup, beaucoup de verges. Oui, il y a eu une amélioration dans les dernières semaines, mais quand même, c'est pas encore là, la défensive qui fait peur aux porteurs de ballon adverses. Puis le problème, c'est que t'as beau dire « Ah, OK, on va mettre 8 gars dans la boîte, on va amener 9 gars dans la boîte s'il faut. » Mais Derrick Henry, je voyais une stats passée de Next Gen Stats, qui est un peu un organisme de statistiques de la NFL, mais qui va un peu plus loin. Là. Lorsqu'il a affronté des boîtes de 8 joueurs défensifs et plus, ben, il y a eu 729 verges cette année en 135 portées. Donc, c'est une excellente performance qui est au premier rang de la ligue des porteurs à ce niveau-là. Ben, tu sais, ça te montre que t'as beau dire, OK, on va l'arrêter. On le sait qui s'en vient, on va l'arrêter. Il n'y en a pas de solution. Puis, la seule solution pour les Chiefs, en fait, c'est assez drôle à dire, mais ça va être l'attaque. Il va falloir marquer beaucoup de points puis rapidement. Parce que sinon, Derrick Henry peut prendre le contrôle de ce match-là. Moi, je vois pas comment ils peuvent l'arrêter.
Vas-y, John Lacy.
Ben, Derrick Henry, oui, puis l'attaque, évidemment, la ligne à l'attaque des Titans, moi, m'impressionne. C'est les deux lignes à l'attaque de ce match-là m'impressionnent, et pas pour les différentes raisons.
Parfait.
La ligne à l'attaque des Titans, c'est je trouve que sa physicalité, c'est cette espèce de désir hey, on va gagner puis on va s'imposer physiquement, puis on va imposer ce qu'on veut à l'autre équipe, puis on va le faire en puissance avec soit des lignes débalancées par moment, deux ailiers rapprochés, puis on va courir la balle. Même si l'autre équipe le sait qu'on va courir la balle, on va le faire, puis on va avoir du succès. Ça, faut lever notre chapeau à ça. Et de l'autre côté, tout le monde sait que les Chiefs vont lancer le ballon, là. Puis écoute,
y a personne qui va être surpris de ça, là.
Dans le match contre Houston, c'était pas balancé, là, à l'attaque, là. On lance 65% du temps, puis on va courir, puis même quand on va courir, ça, tu sais, on va utiliser des jet sweeps, ça va être pas nécessairement des courses directement sur la défensive adverse, mais on va protéger notre corps de façon exceptionnelle. Mais c'est ça qu'ils ont fait. Puis c'est pas comme si les Houston est pas capable de mettre de la pression. Quand t'as J.J. Watt sur la ligne défensive, il a absolument, absolument rien fait. Il a dévié une passe à un moment donné au troisième quart. Puis c'est tout ce que j'ai vu de J.J. Watt. Mais il faut donner beaucoup de crédit. Puis est-ce que la ligne défensive, puis on sait que les Titans vont peut-être essayer de prendre des chances puis blitzer, vont-ils être en mesure de se rendre à Patrick Mahomes? Pour moi, elle est là, la grande clé de cette rencontre-là.
Stéphane, est-ce qu'en ville, on parle à Kansas City de la fameuse fiche de Coach Reed contre les Titans? Une victoire, 8 défaites, dont une défaite cette saison là dans le match. Le match avait eu à Tennessee. C'était une victoire des Titans. Et d'ailleurs, Derrick Henry avait eu un match au sol incroyable dans ce match-là. Est-ce qu'on parle de ça en ville, mon cher Steph?
On en parle beaucoup, mais en même temps, c'est un sujet tabou, là, tu sais, dans le vestiaire ici. Les joueurs aiment pas trop se faire poser la question. Ce qui était drôle hier, c'est qu'il y avait un appel conférence avec l'entraîneur des Titans, Mike Vrabel. Puis il s'est fait poser la question, lui, carrément, là, comment tu l'interprètes, la fiche d'Andy Reid? Il dit, est-ce que le journaliste lui a demandé, est-ce que tu accordes de l'importance à la fiche d'un 8 d'Andy Reid face aux Titans, puis Vrabel a répondu tout simplement non, aucune importance. Puis là, après, il a élaboré un petit peu, tu sais, il dit Andy Reid est un excellent coach. Il dit la NFL est meilleure aujourd'hui parce que c'est un entraîneur dans la NFL. Il a inspiré plusieurs jeunes entraîneurs. Il est un mentor pour plusieurs qui aujourd'hui sont ailleurs dans la ligue. Cette fiche est pas significative du tout. C'est une autre époque, c'est du passé. Donc, lui, il a rejeté ça là, du revers de la main. Mais il reste que ça joue dans la tête clairement du monde ici. Je parle pas des joueurs là, puis des coachs, mais les gens ont peur de cette fiche-là. Là. T'sais, c'est un peu la grande question. Là. Pourquoi c'est sa bête noire? Puis qu'est-ce qui arrive à chaque fois contre cette équipe-là? Mais il en reste pas moins que il y a eu des bad luck là-dedans. Il y a eu toutes sortes d'affaires. Je pense qu'Andy Reid mérite plus de respect, là, tu sais, ce serait dommage, honnêtement, que, encore une fois, pour lui, là, qu'il qu'il se retrouve du mauvais côté de la clôture, là, parce que, écoute, c'est un coach qui a tellement gagné dans cette ligue-là. Je voyais une stat passer. Il y a 220 victoires, Andy Reid, incluant les séries. C'est le plus de victoires pour un coach sans gagner le Super Bowl. C'est quand même important. Les Chiefs veulent aller le chercher pour lui. Il y en a beaucoup de joueurs qui ont parlé de ça aujourd'hui dans les conférences de presse, juste avant l'enregistrement de l'émission. Ça va être bien intéressant à suivre. Il a l'air extrêmement apprécié à Kansas City, honnêtement, Andy Reid, à la fois par les joueurs et par les gens là, que tu rencontres sur place.
On va aller aux prédictions et je retourne du côté du John ici. À moins, t'avais de quoi ajouter?
Ben, sur Andy Reid aussi, c'est peut-être sa façon de s'occuper de la fameuse horloge, surtout dans les fins de demi.
C'est
les
là des fois qu'Andy...
C'est pas sa force, on va le dire comme ça. Plus. Donc, évidemment, plus le match pour moi est serré, plus cet aspect-là...
Le facteur Reid peut devenir un facteur,
effectivement. Mais ça reste que je suis tout à fait d'accord. Moi, c'est un play caller extraordinaire dans son appellation de jeu. Il a toujours été bien au-delà des tendances puis des nouvelles. C'est un précurseur, on va le dire comme ça. Au début, c'est un maître du West Coast offense. Puis il a pas hésité à changer puis l'adapter avec Patrick Mahomes. Son cahier de jeu là, c'est plus du West Coast offense qu'on voit avec les Chiefs. Donc pour moi, c'est un coach offensif. Qui frôle un peu le génie, honnêtement, Andy Reid.
John, essayez prédiction, s'il vous plaît. Qui remporte ce match?
Moi, je vais demeurer avec les Chiefs. J'ai dit que pour moi, les Chiefs, c'était la meilleure équipe qui restait dans les séries. J'y crois encore, mais je pense que ça va
être... Et les Ravens sont disparus, donc...
Mais je pense que les Titans vont vendre chèrement leur peau. Et le début de rencontre, pour moi, est crucial. Écoute, comme entraîneur, d'habitude, si tu gagnes le coin toss. D'habitude, tu reportes ton choix en deuxième demi, ce qui est souvent la chose à faire. Si j'étais les Chiefs et je le remporterais, peut-être que je commencerais avec le ballon pour essayer de prendre
l'avance. D'imposer le rythme.
Puis peut-être justement faire courir les Titans. Parce que si les Chiefs prennent l'avance, les Titans ils sont pas bâtis, je pense, pour tomber dans une...
Attaque après l'autre.
Exactement. Dans un festival offensif, là, je pense pas que ça va être ça. Donc, la victoire des Chiefs,
30-21. Oh, OK, parfait. On continue, on s'en va à Kansas City avec Steph. Qui remporte ce match, mon Steph?
Ben, moi, j'y vais avec les Chiefs aussi, même si je pense que les Titans, comme Jean l'a bien dit, là, pour employer ces mots, sont bâtis de la bonne façon pour être capables de battre les Chiefs. Mais je pense que, par contre, les Chiefs vont connaître un gros début de match. Comme je le disais tantôt, dans ce contexte-là, ça peut devenir difficile pour les Titans d'imposer Derrick Henry comme ils le font depuis plusieurs semaines maintenant. Je vais y aller avec une victoire par 10 points, un genre de 38 à 28, là, quelque chose comme ça.
Les gars, je vais être un petit peu l'oiseau de malheur. Je crois une victoire des Titans.
Tu l'es toujours, Matt.
Oui, oui. Je crois que l'équipe schizophrène de la NFL va sortir encore une grosse performance. Derrick Henry est en feu et le jeu au sol des Titans va s'imposer avec une victoire, je dirais, de 28-24 des Titans. Donc, c'est pas ce qu'on souhaite. J'espère me tromper. Ça me ferait plaisir. On veut tous voir un Québécois au Super Bowl. Mais j'ai l'impression que le read factor et le sa mauvaise fiche contre les Titans, tout ça mis ensemble, le jeu au sol, la bonne performance de Derrick Henry, je vois une victoire des Titans. Messieurs, on va prendre une courte pause et ensuite on revient. Et il faut pas oublier, il y a un autre match de demi-finale duquel on va parler dans quelques instants. Alors, on est de retour, chers amateurs de football, et on part de Kansas City et on s'en va du côté de San Francisco. Les Packers de Green Bay qui vont visiter les 49ers dans le deuxième match du dimanche, c'est à 18h40. Je regarde du côté du John Essie. John Essie, qu'est-ce qui t'intrigue dans ce match-là? C'est où tu mets ta vision en début de match? N'oublions pas, les 49ers ont complètement explosé les Packers dans le duel durant la saison. Une victoire de 37-8 au mois de novembre. Bon, je te laisse aller.
Tu l'as mentionné, c'est un match qui est important parce que souvent, quand il y a un match qui est pas serré, le deuxième contre la même équipe, ça se peut que tu gagnes encore de nouveau, mais
généralement, c'est plus
serré. L'écart, selon moi, je serais très surpris d'avoir droit à un massacre comme on l'avait vu. Je respecte beaucoup, par contre, les deux formations qui sont là. Il y a quelqu'un qui m'a dit, par exemple, écoute, cette semaine, il m'a dit, les Packers, c'est peut-être la pire équipe que j'ai vue de 13 victoires, 3 défaites. Je suis pas nécessairement d'accord. Mais c'est pas, je comprends son point. C'est pas une équipe spectaculaire. C'est plus l'équipe avec Aaron Rodgers.
Plus conservatrice,
qu'on lance avec Jordy Nelson. Puis, écoute, ce n'est plus ça, les Packers. Les Packers, ils font attention à chaque possession du ballon. C'est une bonne équipe pour créer des revirements, mais pas en donner à l'adversaire. C'est une équipe qui veut s'imposer physiquement, courir avec le ballon. Et c'est là le nœud du problème. Le premier match, ils ont jamais été en mesure d'instaurer un jeu au sol respectable face aux Niners. Se sont ramassés dans des situations de 2 et long, 3 et long. Et avec le front défensif que les Niners ont, ben évidemment, ils ont mis beaucoup de pression sur Aaron Rodgers. Et honnêtement, je pense juste que les Packers avaient vraiment un mauvais match là
dans le corps, dans le système. Moment-là.
Donc l'attaque, pour moi, au terrestre, des deux côtés, va être vraiment importante parce que, selon moi, c'est la pierre angulaire des deux attaques.
Quand le jeu au sol, après ça, on peut passer.
On peut lancer, on peut utiliser le play action. Donc, les deux équipes le font très bien. C'est un peu le même principe avec les Niners et Jimmy G.
Stéphane Cadorette, ta vision de qu'est-ce que tu vas regarder dans ce match-là? On comprend que tu pourras probablement pas le regarder à temps plein. Tu vas voir tes textes à rédiger pour le Journal de Québec. Mais qu'est-ce qui attire ton attention dans ce match-là en vue du match de dimanche?
Oui, juste une petite parenthèse là-dessus sur ce que tu disais avant de me lancer dans l'analyse, là, mais ça, c'est toujours le seul regret que j'ai. Puis tu sais, je peux pas me plaindre, là, je couvre une finale de conférence, c'est tellement le fun, c'est un privilège, mais honnêtement, tu vois pas beaucoup la deuxième partie, c'est la seule affaire. Là.
Non, parce que toi, t'as un deadline à respecter, des textes à envoyer.
Ouais. les vestiaires aussi à les faire. Là, fait que c'est quand même, t'es occupé passablement pendant l'autre match.
J'ai presque une larme à l'œil. Là.
Ouais, on va pleurer, je pense, Steph.
Ouais, c'est ça, je vais vous émouvoir beaucoup. Hein. Mais sérieusement, je pense aussi là, que ça peut pas être un massacre comme l'autre fois. La seule chose, c'est est-ce que la ligne offensive des Packers va être capable de tenir son bout contre la ligne défensive des Niners? T'sais, c'est complètement fou. Tu regardes...
c'est vraiment une gang de pas fin.
Bakhtiari. Oh oui, le bloqueur David Bakhtiari des Packers, il a de l'expérience. Il est bon depuis plusieurs années. Puis dans le dernier match contre les Niners, Nick Bosa avait été crédité de 6 pressions sur le corps arrière là, contre lui. C'est quand même pas rien. Là. Nick Bosa arrive dans la ligue, il fait des ravages déjà, puis on parle beaucoup de lui parce que visiblement, il va être recrue défensive de l'année, là, mais il y en a d'autres. Là. Il y a des choix de première ronde en masse sur cette ligne défensive-là. Les Niners ont fait le pari de construire là, par les tranchées, là, beaucoup de choix de première ronde sur la ligne défensive, des choix élevés aussi sur la ligne à l'attaque. Donc, c'est ça leur formule, c'est rien de très compliqué, on réinvente pas la roue, mais honnêtement, là, si les Packers sont pas capables de maîtriser mieux le front défensif des Niners, ça risque d'aller de travers assez rapidement. Je pense que ça va être une meilleure performance là, du côté de la ligne à l'attaque des Packers, mais il y a rien qui le garantit, parce que les Niners, on les voit semaine après semaine, c'est leur pain puis leur beurre, des sacs, des pressions... Ça rentre de partout. Ça devient très, très difficile pour les corps arrière adverses de manœuvrer. Donc, c'est le point pour moi là, qui est le plus important, disons, à surveiller. Du côté des Niners, j'ai hâte de voir là, est-ce qu'on va être capable, encore une fois, comme la semaine passée, de d'établir le jeu au sol tôt dans le match puis de pousser ça. Ça risque d'être plus complexe quand même que contre les Vikings. On sait que les Packers... il y a une lacune, c'est qu'on est capable de courir contre eux, sauf que la semaine passée, c'était vraiment une passoire. Si c'est pas le cas cette semaine, va falloir que Jimmy G réalise des jeux. Va falloir qu'il arrête de se faire intercepter en voyant pas le fameux secondaire au milieu du terrain là, qui jump le tracé, si on veut. Ça, il s'est fait prendre souvent les culottes à terre dans cette situation-là, cette saison, Jimmy G. Donc, j'ai hâte de voir s'il peut réaliser les gros jeux dans un match de grande importance. Je sais que Johnny doute beaucoup de lui.
Tout à fait. Et voilà, pas, et voilà.
Moi, c'est pas un corps arrière là, sur lequel je suis encore vendu à 100%, mais disons que j'ai moins de doutes que toi, Johnny. Je pense qu'il a montré quelquefois cette saison, je pense au match, entre autres, contre les Saints, où il avait été vraiment formidable, puis que l'attaque était vraiment retombée sur ses épaules. Là. Le jeu au sol était moins efficace. C'est lui qui avait transporté l'équipe sur son dos. Je pense à des matchs comme ça qui me disent que ce gars-là n'a pas encore énormément d'expérience comme partant. T'sais, ça va être son deuxième départ seulement en série. Mais je pense qu'il a déjà montré des signes très encourageants. Donc, j'ai des doutes aussi, mais moins prononcés que toi, mon cher John.
Parlant de doutes, on s'en va du côté du John Estyle. Prédiction, s'il vous plaît, pour ce match.
C'est vraiment, je trouve, un match difficile là, à prévoir. J'aime le fait qu'on n'a pas beaucoup parlé d'Aaron Rodgers cette année, puis quand ça a été le temps de faire des passes importantes la semaine dernière,
il était là.
Ben pour ouais. Closer le match, honnêtement, il a été extraordinaire. Moi, je pense que les Packers vont arriver en contrôle, je dirais le couteau entre les dents. J'ai l'impression qu'ils vont offrir une très bonne performance. Maintenant, est-ce que ça va être assez pour battre celle des Niners?
On veut votre réponse, Monsieur Carrier.
Je dirais que oui.
Ah oui?
Ouais, oh! Moi, je vois avec la surprise. Je pense qu'Aaron Rodgers va faire la différence dans ce match-là. Il y a une grande partie de ce que je viens de dire qui, pour moi, dépend du plan de match. Le plan de match ne peut pas être aussi conservateur que d'habitude pour les Packers, surtout sur les premiers essais. Utilise le premier essai comme une arme. Utilise le premier essai pour peut-être utiliser beaucoup de petites passes rapides, ouvrir le jeu, ce qui va ouvrir ton jeu au sol par la suite, parce que les Packers ont besoin de courir le ballon. Mais moi, je pense qu'il va être supérieur à Jimmy Garoppolo. Et défensivement, ben, du côté des Packers, je pense qu'ils ont des outils pour faire quand même...
Du dommage.
Du dommage également. Donc, peut-être arrêter le jeu au sol, évidemment, et surtout forcer Garoppolo à lancer à l'extérieur. Vous regarderez, Garoppolo, il adore lancer dans le centre du terrain, tout le monde le sait. Ils ont des outils aussi pour le faire avec Kettle puis d'autres receveurs. Ils font beaucoup de tracés croisés. Moi, j'essaierais de défensivement du côté des Packers de enlever le centre du terrain à Garoppolo, le forcer.
Tire sur le côté.
Exactement. Sur les lignes de côté. On va voir ce que ça va donner. Moi, j'ai une victoire très serrée des Packers. 31-27 face aux Niners.
Oh, Steph Cadorette, est-ce que t'es à Upset City, toi aussi, ou, hein?
J'ai des doutes.
Non, je vais y aller avec les Niners.
OK, parfait.
Ouais. 23-20 Niners, un match serré, comme je le disais tantôt, c'est le front défensif qui va faire la différence. On parlait tantôt du fait que les Titans ont ce qu'il faut, t'sais, sont construits de façon adéquate pour battre les Chiefs. Je le vois un peu de la même façon avec les Niners, au sens où ils appliquent énormément de pression. Probablement qu'il n'y a pas une équipe qui met plus de pression sur le corps arrière dans la ligue. Puis Aaron Rodgers, c'est un grand corps arrière. Là. On était peut-être en train de chercher des poux, mais s'il y a un défaut, c'est qu'il s'accroche longuement au ballon, là, souvent. Est-ce qu'ils vont avoir un plan de match où justement il est capable de se départir du ballon rapidement dans le flanc, des trucs comme ça? Peut-être. Mais chose certaine, s'il s'accroche au ballon comme il a tendance à le faire, il va trouver que ça arrive vite dans son coin. Je pense que c'est ce qui risque de se produire du côté de San Francisco. C'est ça, je pense que sans porter l'équipe sur ses épaules, Jimmy G va faire les jeux nécessaires. Puis c'est ça, on va y aller avec une victoire, là, disons, un placement dramatique en fin de match, ça pourrait être bien ça.
J'aime ça, oui. J'aime ça.
Moi, je vais avec le placement dramatique en fin de match, mais je vais avec une victoire des Packers.
Ah,
moi,
ouais.
Avec le John ici. Oh. Moi, je pense que c'est le facteur corps arrière qui va changer le match. C'est-à-dire, j'ai l'impression que Aaron Rodgers, un gagnant du Super Bowl, va arriver, va réussir les jeux, alors que Jimmy G va peut-être se ramasser dans notre chronique au bar la semaine prochaine. Donc, mon feeling, victoire des Packers. J'y vais avec un score un peu plus élevé. Moi, il va avoir des points dans ce match-là. 35-32. Placement en fin de match, victoire des Packers. Est-ce que je suis fou?
Les gars, Jimmy G est votre mal-aimé qui va s'élever au rang de martyr ensuite.
La semaine prochaine. Non, à la blague. Alors, on a fait le tour, messieurs. On va prendre une petite pause et ensuite, on va aller rapidement faire le tour de certaines actualités dans la NFL, alors on va bien. Alors, on est de retour dans la zone payante et on a quelques sujets dont on veut vous jaser avant de mettre fin à l'émission. Et on s'en va du côté d'une retraite vraiment surprise, là. Le secondaire tout étoile des Panthers de Caroline, Luke Kuechly, j'ai tant de misère à dire son
Kuechly.
Nom. Kuechly, merci beaucoup Johnny, qui a annoncé sa retraite. Un joueur qui traîne des blessures depuis des années, souvent blessé, des commotions cérébrales notamment. Je vais laisser aller Steph Cadorette. Une nouvelle tendance dans les NFL, les joueurs vedettes qui prennent leur retraite pour protéger leur santé dans le futur.
Oui, ben, je dirais malheureusement pour les spectateurs, mais heureusement pour eux. Tu sais, il faut penser à la santé du joueur, je pense, avant tout, là-dedans. Il ne faut pas être égoïste là, comme amateur. Tu sais, c'est plate de voir un gars s'en aller au sommet de son art à 28, 29, 30 ans. Puis il y en a eu plusieurs dans les dernières années. Là. Tu sais, je pense à Patrick Willis avec les 49ers. Il y a eu évidemment Andrew Luck là, l'été dernier. Kuechly, c'est un secondaire de grande qualité. Puis j'espère que personne ne se dit il fait pas bien de s'en aller, il va le regretter ou quoi que ce soit. Le gars a dû mûrir sa décision, là, vraiment. Il a dû réfléchir à ça depuis des mois. Puis les commotions, c'est un problème qui est très sérieux, dont on voit toute l'étendue là maintenant. Je pense que la NFL a joué à cachette un peu trop longtemps avec ça. Ça lui revient en face un peu. Écoute, c'est une sage décision. C'est peut-être pas la décision qui plaît aux amateurs des Panthers, évidemment, là, mais ce gars-là mérite tout notre respect. Il a connu une carrière phénoménale. Puis la seule chose que je trouve dommage dans son cas, c'est qu'en évoluant en Caroline, rien contre la Caroline, rien contre les Panthers, mais ça reste un marché qui est loin un peu des grands projecteurs. Tu sais, si ce gars-là avait joué en Nouvelle-Angleterre, à New York, à Dallas, on en parlerait comme d'un demi-dieu dans la NFL carrément. Il a été dominant à ce point-là, autant contre le jeu au sol que contre le jeu aérien, il a été efficace dans toutes les phases du jeu sur le terrain. Et le fait qu'il évolue pour les Panthers de la Caroline, même s'il a été joueur défensif de l'année, même s'il a été recrue défensif de l'année, on a parlé beaucoup trop peu de sa carrière qui était franchement phénoménale.
John, essaie un petit mot sur la retraite surprise de ce joueur étoile.
Ben, comme je l'ai mentionné sur les réseaux sociaux, moi, pour moi, c'est tu peux pas lancer de tomates à ce gars-là. Je veux dire, il a tout fait. C'est un gars qui est un guerrier. Il a même combattu le cancer. Moi, je l'avais vu jouer à Boston College l'année qu'il revenait, sa dernière année, donc son année finissant, quand il revenait là, justement d'avoir pris un an pour combattre le cancer. Il était tellement dominant sur le terrain.
College, ce gars-là devait manger tout de suite.
Mais honnêtement, il faisait pas beaucoup blitzer parce que justement, il y avait tellement de range que tu sais, les Eagles étaient très... On dit, il va faire tous les jeux. Ben, il faisait tous les jeux, faisait tous les plaqués. Puis évidemment, il a eu une très grande carrière. Il y a une année qu'il a gagné joueur défensif de l'année aussi dans la NFL. Puis malheureusement, je pense que la NFL ça va me manquer de regarder un match des Panthers de la Caroline puis qu'il soit pas là. C'est un gars qui m'inspirait beaucoup. Je trouvais qu'il était tellement intense sur le terrain, mais il faut respecter ça. Il y a eu plusieurs commotions. Puis maintenant, ce qui est le fun, c'est que les joueurs ont peut-être un petit peu plus d'indépendance de ce côté-là parce qu'ils ont plus d'argent que par le passé. Donc, c'est ainsi de suite. Juste, il y a eu un tweet intéressant d'Adam Schefter, par contre, dans les dernières années, c'était un peu l'âge moyen des joueurs qui prennent leur retraite, puis ça n'a pas beaucoup changé. Donc, c'est peut-être une impression qu'on a à cause que ces joueurs-là sont... ils prennent leur retraite, mais faut penser que Larry Fitzgerald revient l'an prochain. C'est un joueur qui est âgé, qui aurait pu prendre facilement sa retraite et même avant ça.
Et le compte de banque est full.
Exactement. Donc, lui, c'est sûr que Larry Fitzgerald, s'il revient, c'est parce qu'il aime le football.
On poursuit, et je reste avec toi, Johnny. Que penses-tu du nouveau... head coach, du côté de l'entraîneur-chef, excusez-moi, du côté des Browns, est-ce que bon choix, mauvais choix, comment tu le sens?
Ben, c'est sûr que c'est pas une signature sexy, on va le dire comme ça, le Kevin Stefanski.
C'était le coordinateur offensif
des Vikings
juste du Minnesota. Pour, excellent.
Et quand tu regardes ce qu'il a fait avec les Vikings, on peut pas dire qu'il a été si extraordinaire que ça comme coordinateur à l'attaque. Par contre, moi, ce que j'aime, c'est que c'est un gars qui a pas brûlé d'étapes. Écoute, tu regardes ce qu'il a fait comme entraîneur, puis il a commencé vraiment au bas de l'échelle, surtout avec les Vikings, puis il a monté de petit à petit. Il a commencé comme assistant coach de carrière, coach de lié rapproché, porteur. Il a fait toutes les positions offensives. À un moment donné, il a gradué comme coordinateur à l'attaque. Donc, assurément, pour moi, c'est quelqu'un qui a je dirais une bonne
éthique. Faire ses devoirs.
Exactement.
Pour se rendre là.
Une bonne éthique de travail. Maintenant, est-ce qu'il va être en mesure de mettre de l'ordre dans le vestiaire des Browns? Et comme on va le voir dans la chronique au bar, il y a énormément besoin d'avoir un peu d'ordre dans ce vestiaire-là et de discipline. Ça va être une autre histoire. Donc, moi, je laisse toujours chance aux coureurs. Je pense qu'il y avait peut-être des meilleurs candidats. Moi, j'aimais beaucoup Josh McDaniels. C'est un gars d'Ohio. Je comprends pas pourquoi les Browns sont pas allés de ce côté-là. Dieu sait qu'il a fait ses preuves comme coordinateur à l'attaque. Mais écoute, ils ont choisi Stefanski. OK, mais maintenant, il faut qu'il livre la marchandise.
De ton côté, Steph, rapidement, tes impressions de cette embauche? Ouais.
Écoute, la seule raison pourquoi les Browns sont pas allés avec McDaniels, il y a eu une très bonne entrevue, là, selon ce qui est rapporté un peu partout, mais c'est que lui voulait changer la structure de l'organisation. Il n'était pas question qu'il se rapporte à un Paul de Podesta, par exemple, qui est pas mal le boss là-bas, finalement.
Ouais, maintenant,
on en comprend. Lui, c'est l'expert un peu là, très branché là, sur la nouvelle tendance analytique là, dans le sport. Il est beaucoup là-dedans. Il a fait ses preuves avec les au baseball majeur là, avec ça aussi. Donc, il voulait lui embaucher Stefanski. Il voulait même l'embaucher l'an passé. Là, si je me rappelle bien, c'était son candidat numéro un, mais l'équipe était plutôt allée vers Freddie Kitchens. Donc, est-ce que ça va être une bonne embauche? C'est vrai qu'il n'a pas fait de miracle au Minnesota, puis on se demandait par moment si le vrai coordonnateur offensif au Minnesota cette année, c'était pas Gary Kubiak, là, c'était carrément son système. On l'a engagé comme consultant, là, mais il n'y avait pas le titre et tout. Là. La seule chose, Stefanski, qu'on va donner aux Browns, honnêtement, là-dessus, moi, je trouve, c'est que s'ils veulent vraiment s'enligner dans leur fantasme analytique, ils sont allés vers leur candidat parce que semble-t-il que les plans de match vont être beaucoup axés là-dessus, avec toutes sortes d'analyses, là, en tout cas. Ils pouvaient aller dans une autre lignée, recommencer à zéro encore une fois. Je pense qu'ils ont aligné un peu la vision de leur monsieur DePodesta avec celle de Stefanski. Ça a le mérite au moins d'être clair, de dire on s'en va dans cette direction-là, on essaye jusqu'au bout, voir ce qu'on va aller chercher avec ça. Puis si ça marche pas, écoute, il sera toujours temps de le recommencer. Les Browns sont bons là-dedans. mais je suis pas convaincu au niveau là, X et O puis tout ça, mais on voit de plus en plus des coachs dans les équipes comprennent de plus en plus que c'est pas toujours les plus grands stratèges qui font les meilleurs coachs. Donc, faut laisser effectivement la chance aux coureurs. Peut-être que Stefanski va être un très bon meneur d'hommes, très respecté, puis que les Browns vont finalement avoir le dernier mot là-dessus. Ça reste à voir.
Excellent. On a fait le tour de nos actualités. On va prendre une courte pause, la dernière, et on s'en va directement à la chronique au bar. I got a hangover. Whoa, I've been drinking too much for sure. Alors, on est de retour, et mesdames et messieurs, moi, là, je m'en vais direct au bar avec tout le coaching staff des Texans, notamment l'entraîneur des unités spéciales et M. O'Brien. Vous me voyez venir. Quand tu mènes 24-0 dans un match de série éliminatoire, pourquoi tu te tires une balle d'un pied en y allant avec un jeu truqué sur un botté de dégagement dans ta zone, et là, tu donnes toute la motivation à l'autre équipe quand la défensive fait le jeu. Et après ça, ben tu manges 51 points dans le buffet et tu perds. Donc, bien sûr, j'envoie O'Brien, tout le coaching staff là, des Texans au bar. On a besoin de place et on vous sert quelques boissons fraîches. Le temps de réfléchir et on vous impose de regarder le match de série du week-end à venir.
J'aime bien.
T'aimes bien ça, hein?
Ouais, imposer.
Regarde la game où tu pourrais être.
Je pense, par contre, ça s'est fait à 24-7.
Oh, je m'excuse. Mais en tout cas, t'es quand même en bonne position.
Là. Ah ouais, tout à fait.
John C., qui tu envoies au bar?
Écoute, moi, sans aucun doute, j'envoie Odell Beckham Jr. au bar.
Ah, il a les mains longues, là, monsieur?
Ben, écoute, un autre geste qui démontre à quel point il manque de jugement. Écoute, c'est évidemment, il était au match
championnat
national. Il est très heureux parce que lui, il vient de LSU. Évidemment, Louisiana State University remporte le championnat
match
national. Comme en passant, le match s'est pas mal déroulé comme je l'avais prédit.
Oui, bien connu, monsieur aussi.
Puis lui, dans les festivités, première des choses, il commence par donner de l'argent aux joueurs, ce qui est tout à fait illégal, ouais, surtout dans la NCAA. Ouais, d'ailleurs, il y a une enquête de la NCAA qui va se faire là-dessus. Et là, je sais pas si vous avez vu, parce que là, il y a eu une vidéo sur dans les festivités, il y a un agent de sécurité de la Nouvelle-Orléans qui est là et qui demande aux joueurs de pas boire parce que l'âge légal, c'est 21 ans. Puis il y en a qui fumaient le cigare, fait que là, ils distribuent des avertissements. Et là, Odell Beckham Jr. prend sa main et il donne une bonne vieille tape sur les fesses. Mais on s'entend que ça reste pas loin d'un policier, là. C'est un agent correctionnel, mais un agent de la paix. T'es pas supposé faire des choses comme
en
ça.
En fait, tu touches à personne jamais, là.
Exact.
C'est certainement pas une personne en autorité comme ça.
Ça démontre un flagrant manque de respect. Puis pour moi, c'est un gars qui recherche continuellement de l'attention. Et l'autre point aussi, je sais pas si tu as vu aussi dans le speech de l'entraîneur-chef Ed Orgeron, il l'a interrompu souvent dans son speech. Tu sais, t'as pas joué avec eux de l'année, t'as pas d'affaires.
Non, tu pointes juste à la fin. Là,
exactement. Ça. En tout cas, pour toutes ces raisons-là, j'envoie OBJ au bar et je le condamne à prendre pour moi le plus mauvais shooter que j'ai écouté dans ma vie, la chartreuse. Donc, lui, il est condamné à prendre des chartreuses jusqu'à ce qu'il soit en très mauvaise condition physique.
Oh, mon Dieu, c'est une punition assez sévère. Steph, t'envoies qui au bar?
Ça va coûter cher au bar cette semaine. Il y a beaucoup de monde. Puis, je vais y aller avec la tendance que Matt avait amenée. Moi, j'en vois beaucoup de monde au bar. Ça va être les partisans des Chiefs qui ont quitté le stade à 24-0.
Oh!
Écoute, il y a eu
du monde qui ont du mal dormir ce soir-là. Ouh!
Mais je comprends pas quel manque de jugement. S'il y a un club qui pouvait revenir de ce match-là, c'était bien les Chiefs, non? Écoute, on construit pour faire des retours spectaculaires. Je ne comprends pas le manque de foi en leur équipe. Je comprends qu'au début, ça faisait dur. Là, on avait l'impression de regarder drôle de vidéos même. Mais honnêtement, ils se sont tellement bien ressaisis. Je trouve que ça fait dur d'abandonner la cause aussi rapidement. J'ai été surpris et déçu là, de constater ça. Puis pas juste dans le stade, mais même t'étais sur les réseaux sociaux puis t'entendais les gens, bon, ben c'est fini. Tu voyais des tweets passer à l'an prochain. C'est quoi ça? Je comprends pas. Il n'y a pas à moitié de la game qui était jouée. Moi, en tout cas, j'ai toujours cru qu'ils pouvaient revenir dans le match. Je me dis, s'il y a une équipe qui peut le faire, c'est bien eux autres. Donc, les partisans qui se sont découragés vite, là, calmez-vous, puis allez prendre une crème de menthe au bar. Ça aussi, c'est dégueulasse.
Ouf, ouais, une crème de menthe, là, sérieux. C'est assez raide. Alors, l'émission se termine ici. Stéphane, on va te suivre là, toute la semaine. On est jeudi, là, et on va te suivre toute la semaine là, tes reportages dans le Journal de Québec sur pour le match, en prévision, le match Titan.
Chief.
Dire Chief, merci beaucoup. Moi et John aussi, on va regarder ça à distance. On va vous inviter à la prochaine émission du balado. On a quand même une émission la semaine prochaine, même s'il n'y a pas de match. On va mettre la table tranquillement vers le Super Bowl, les hommages individuels.
Stéphane, moi je te souhaite dans la capitale mondiale du barbecue. Je te souhaite quand même d'aller chercher un bon souper quelque part d'ici au match de dimanche. Là.
Écoute, je te promets une chose, Johnny, ça va être plus qu'un bon souper, puis je me salirai les doigts pour toi.
Ah, c'est bien. Un homme de sacrifice. Merci d'avoir été là, tout le monde. On vous attend pour notre prochain balado la semaine prochaine. Et on vous souhaite un excellent dimanche de football. Bonne fin de journée, tout le monde.